Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Est-ce que je peux faire le bruit de Super Laser Punch comme un cliqueur? C'est ton, rôle, ton but aujourd'hui, Yohan. Vas-y. Ah non, c'est moi. Merde. attends. Je vais essayer de faire un truc. Pas mal, non?
C'est convaincant.
N'est-ce pas? Tu vois, c'est Super Laser Punch en cliqueur. tu vois, je suis.
Je n'ai plus les mots. C'était.
j'ai trois heures de sommeil et ça m'aide à. Les cordyceps ont été activés dans mon cerveau, tu vois.
Et tu as l'esprit zombie ce matin.
Un petit peu, ouais. Ah, peut-être que je pourrais essayer ça, tu vois, faire une conversation en cordyceps pour Battlefront, c'est l'event caritatif que je fais en avril, le 21 ou 23 avril. Je pense que je vais faire un live, si j'y arrive, si je ne suis pas complètement mort de fatigue, un live pour déterminer les donation goals cette semaine, au moment où on enregistre. Vendredi, peut-être, un live avec les auditeurs. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec la voix des cordyceps. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah non, mais alors là, maintenant, je suis convaincu. Tu me l'aurais dit avant d'avoir d'avoir proposé ton imitation, je ne sais pas. Maintenant, je suis convaincu.
Bon, je suis Patrick Béja, il est Johan. Nous sommes là pour parler de The Last of Us, série HBO, et surtout des trois derniers épisodes. Enfin, je dis surtout des trois derniers, puisqu'on est à la fin. On va rendre notre jugement sur la série dans son ensemble, et après avoir parlé un petit peu plus rapidement que d'habitude, peut-être des trois derniers épisodes. Et je vous propose qu'on se lance tout de suite, quand même, en ayant prévenu que même si vous n'avez pas vu les trois derniers épisodes ou pas fait le jeu, je vous recommande quand même, parce que la fin est importante, donc je vous recommande de ne pas écouter cette émission. C'est quand même pas une bonne idée au niveau de ce qui va se passer. Donc, premier épisode dont on parle, Left Behind. Je ne vais pas refaire, on a beaucoup aimé la série jusqu'ici, grande réussite, merveille, tout ça. Left Behind, c'est l'épisode où on a le flashback sur Ellie et Riley qui passent leur journée dans un centre commercial zombie lui aussi, mais un petit peu réanimé. Qu'est-ce que tu as pensé de Left Behind, qui était un moment important dans le jeu et qui était présenté dans le DLC du jeu? C'est le nom du DLC d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient assez excités. C'est le nom du DLC et il est quand même, je pense, l'un des moments préférés pour de nombreux joueurs. Qu'est-ce que tu en as pensé en version série?
Alors, effectivement, du coup, moi, c'est clairement mon moment préféré du jeu. C'est assez étrange de le revoir intégré comme ça dans la ligne chronologique, puisque normalement, on finit l'histoire et puis après, il y a ce truc en plus qui vient et qui transforme un peu toute la vision qu'on avait d'Ellie, en fait. Et du coup, c'est un moment assez fort. J'ai été vraiment assez émerveillé par ce qu'ils ont fait dans la série sur ça, en termes visuels, en fait. Ce mall qui est grandement refait complètement en images de synthèse, avec voilà, des superbes lumières, etc. J'ai trouvé que c'était réussi, quoi. Un petit peu quand même en deçà de mes attentes à moi.
Ah oui.
Mais quand même, voilà, tout y est.
C'est très proche du jeu, là encore. Hein.
Ouais, là, c'est extrêmement proche du jeu. En fait, je pense que petit à petit, au fil de la série, Je me rends compte quand même que l'attachement profond que j'ai pour la Ellie du jeu, pour les personnages du jeu, en fait, vient forcément, on va dire, atténuer ce que peuvent me proposer les personnages de la série. Et ça je le remarque particulièrement sur cet épisode-là, où tu vois, j'ai toujours ce truc qui vient, ouais, mais c'est quand même pas aussi puissant.
C'était mieux dans le jeu, tu vois, c'est pas...
Et j'en suis d'autant plus convaincu que quand je demande autour de moi, les gens ont bien aimé, tu vois, ils ont bien aimé cet épisode, mais c'est pas extraordinaire, tu vois. Alors que moi, quand j'ai fait le jeu, c'était extraordinaire. Ouais. Et donc, il y a ce côté-là, voilà, qui est pour moi un petit peu en retrait, mais tout y est, ça convoque quand même des émotions quand même assez, assez fortes. Et puis, tout l'enrobage visuel est superbe, quoi.
Et puis, il faut dire que dans le jeu, d'une part, ça vient après, on ne sait pas que... on se doute un petit peu que Ellie est lesbienne, mais on ne le sait pas clairement. Et puis, il y a aussi le fait que ça se passe en parallèle. On alterne entre les scènes du présent quand elle essaye de sauver Joël, parce qu'elle part dans un vieux mall tout pourri, un vieux centre commercial tout pourri, et donc ça lui évoque les souvenirs de son aventure avec Riley. Et on alterne entre les moments plutôt, gay, désinvolte, heureux qu'elle a passé avec Riley. Y a un mot précis qui est sur le... Je l'ai sur le bout du cerveau. C'est pas désinvolte, mais... Bon, enfin, c'est un petit peu ce genre de sentiment. Et puis, les moments intenses où elle est en train de se battre pour sa vie dans le mall, dans le présent, et surtout où Joel est en train de mourir dans la petite grange dans laquelle elle l'a parqué, et elle est partie dans le mall pour essayer de chercher justement de quoi le soigner un petit peu. Donc c'est vrai que l'intensité, là encore, est peut-être plus forte dans la série, pour moi également, dans le jeu, pour moi également. Mais oui, dans la série, ça fonctionne très bien. Et puis, une fois encore, c'est un thème, là encore, à chaque début d'épisode, je me disais, mais comment ils vont faire pour faire tenir ce qu'il y a, ce qui prend 3 heures ou 4 heures dans le jeu, dans un épisode de 40 minutes. Et à chaque fois, ils y arrivent, peut-être pas aussi bien que dans le jeu, bon, c'est pas dur, hein. Ils enlèvent tout ce qui est combat avec les zombies, finalement. Les combats avec les zombies... Enfin, les zombies dans la série prennent assez peu de place. Encore moins que dans les films de zombies habituels, où souvent les conflits et les problématiques sont beaucoup plus fortes avec les humains qu'avec les zombies ou les infectés ou tout ce qu'on veut dire. Mais là, on a quoi ? Deux scènes, trois scènes avec, vraiment importantes avec des zombies et c'est tout. Donc, ils enlèvent tout ça et ça tient, ça fonctionne. Je suis d'accord avec l'analyse. Le livre était mieux, tu vois.
Oui.
Jusqu'à dans cet épisode, en tout cas. Bon. When we are in need, autre moment. Il y a que des moments super forts dans cette série, que les moments super forts du film, du jeu, évidemment. When we are in need. C'est la rencontre avec David et les cannibales du village qui essayent de survivre, et le David pédophile qui est, j'ai l'impression, je me souviens plus, mais j'ai l'impression que dans le jeu, c'est un peu plus suggéré, en ce sens que c'est plus clair, ouais, dans la série que clairement dans le jeu. Hein.
Ils ont très largement explicité le truc.
Ouais,
d'ailleurs, la série se termine, hein, clairement sur une tentative de viol qui n'est pas présente dans le jeu. C'est ça, de l'épisode. Donc, ils ont vraiment explicité ça. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est recontextualiser, on va dire, un groupe cannibale pour l'ancrer dans un truc un peu plus réaliste, avec un groupe... De personnes que nous on n'avait pas vues, du coup, enfin qu'on connaît pas, quoi, les femmes, les enfants, avec un peu plus aussi de traits sur leur motivation, et ça, moi, c'est un... alors là pour le coup, et ça j'en reparlerai plus tard quand on parlera de toute la série. Mais là, pour le coup, on arrive dans les choses qui m'intéressent, quoi. C'est-à-dire la recontextualisation des informations, on va dire, en plus qui viennent enrichir l'univers. Et là, on est pas mal là-dedans, quoi.
C'est peut-être contrairement à ce que je dis depuis tout à l'heure. Là, je suis assez d'accord. La série réussit mieux ce passage que le jeu. Et je crois que j'en avais peut-être même parlé à l'époque où, je ne sais même pas si j'en avais parlé, peut-être pour le remake, j'avais parlé du jeu dans le rendez-vous jeu, justement. Mais je me demande si ce n'est pas le truc qu'avait voulu écrire Druckmann dans le jeu. Et puis, il s'était dit, non, on va pas le faire, quoi. Parce que, je ne sais pas si c'est parce qu'on a un attachement plus fort à Ellie ou parce qu'à l'époque, le jeu vidéo n'était pas encore assez mature pour même évoquer l'idée d'une tentative de viol sur une ado, ou parce que Bella Ramsey a l'air plus adulte que n'a l'air Ellie dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont peut-être même écrit et puis réécrit pour l'adoucir dans le jeu. Mais c'est ce que voulait faire, je crois, Druckmann à la base.
Après, la scène où elle est en cage, dans le jeu, ceux qui sont en capacité de comprennent très bien, parce que du coup, il s'approche, il lui prend les mains, il y a un gros plan sur les mains, puis un gros plan sur Ellie qui fait « Ah, okay. Ouais. tu vois qu'elle a compris », et après, elle lui tord le doigt. Donc, tu vois, c'est plus que suggéré quand même dans le jeu, mais effectivement... Ceux qui ne peuvent pas comprendre, on va dire, n'ont pas compris. Ça c'est sûr, alors que dans la série, c'est bien plus explicite, quoi.
Et puis la scène finale, qui est très très proche de ce qu'il y a dans le jeu, est quand même encore plus dure, parce qu'il commence à défaire la boucle de sa ceinture et tu sens que...
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, l'épisode... Et d'ailleurs... Je me souvenais plus exactement comment ça se passait dans le jeu. Je crois que c'est parce que on n'avait pas tous les autres habitants de la ville dans le jeu. Mais quand Joel arrive finalement, déjà qu'on sent dans cet épisode son inhumanité qui ressort. Alors on se dit il veut sauver Ellie, donc on le comprend un petit peu, mais on sent l'inhumanité de sa démarche et de sa violence. Et quand il arrive, je me suis dit, est-ce que c'est lui qui va la sauver ? Et un petit peu, carrément, heureusement, c'est pas ce qui se passe. Elle se, entre guillemets, démerde toute seule et elle s'énerve beaucoup, évidemment. Et donc, elle se sauve elle-même, tu vois. C'est pas la princesse ou la fille en détresse. Et puis, il y a ce moment, évidemment, clé, dont je me demande s'il était comme ça dans le jeu, heureusement que tu l'as fait récemment, tu vas pouvoir me le dire, où il lui dit « It's okay, baby girl », où il lui dit « baby girl », où elle est devenue sa fille adoptive de... Est-ce qu'il le dit dans le...
Oui, le dialogue est identique, il y a le baby girl, elle se démerde toute seule aussi dans le jeu, c'est juste qu'elle reste... c'est juste qu'il arrive au moment où elle est toujours en train de s'acharner du coup sur le cadavre de David. Donc voilà. Alors justement sur cette légère différence là, et c'est là où moi j'ai un problème, je trouve, dans l'épisode, et je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux géré. C'est que dans le jeu, ce moment là, c'est un climax. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est en train d'être dans la fin du jeu complètement. C'est-à-dire qu'il y a Ellie d'un côté qui est vraiment en danger. Joel, lui, ça y est, il va mieux, il est en train d'être à sa recherche. Il y a une tempête de neige, c'est-à-dire qu'il y a une tempête, on voit rien. Tu vois, il y a vraiment un truc un peu apocalyptique. Il veut retrouver Ellie et il est dans dans le même état de, tu sais, il venait de torturer les deux mecs. Et il est en train d'aller à sa recherche, et il est en train de désinguer les mecs du un à un, en fait, sur son chemin, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne, alors que dans la série, on se demande un peu où sont tous ces gens-là.
On se demande et même, coup, voilà, dans la série, moi, un truc que je me suis demandé, c'est genre, bon, bah, ils veulent juste pas aider David, tu vois, où ils l'ont laissé à son truc, quoi. Ils veulent pas en entendre parler, ils sont... alors clairement, il y a un sentiment un petit peu de lâcheté ou d'abandon dans ce groupe. Et là, ils se disent, bon, bah, on ne veut même pas voir parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne veulent pas savoir. Bref, pardon.
Et du coup, ça monte vraiment, vraiment en puissance, en musique, en tension, en action. Et donc, on est vraiment dans une fin de jeu. Et on ne ressent pas, cette fin du chemin un peu dans la série. Et ça, je trouve que, bah, après, c'est aussi lié aux contraintes de temps. Hein. C'est un peu expédié. Et puis c'est genre elle sort du restaurant et puis ils partent en marchant tous les deux au milieu du village, il y a plus personne et c'est un peu, je trouvais ça justement anticlimatique là où c'était vraiment une espèce d'apothéose dans le jeu quoi.
Bon, je pense que le climax c'est le fait qu'ils lui disent baby girl, tu vois, et
oui,
c'est
oui.
Peut-être pas, je suis d'accord que c'est un moment passager. Mais je pense que tout le monde ça a marqué les gens quand même, tu vois, même s'ils insistent pas dessus. Mais bon, je suis d'accord que c'est moins dramatique.
Après, la transformation de la relation Ellie et Joel, elle est parfaitement là. Il y a pas trop de soucis de ce point de vue-là, quoi. Là, on a une Ellie, clairement, plus rien ne sera pareil. Et puis pareil, un Joel qui Son choix final, ça y est, il est fait maintenant, en fait.
Ouais, c'est ça. Un petit mot sur James, et donc l'acteur qui est joué par...
Troy Baker.
Merci, par Troy Baker, qui, pour ceux qui ne le savent pas, j'imagine que tout le monde le sait, mais qui est l'acteur et le motion capture actor et le voice actor de Joel, je vais arrêter de dire Joel, de Joel dans le jeu. Et c'est vraiment marrant de voir cet acteur. Je suis vraiment content qu'il lui ait trouvé un rôle dans la série et que ça soit un vrai rôle. C'est pas juste un caméo avec une petite apparition dans le fond ou machin. C'est un vrai rôle. Et alors, c'est évident parce que le rôle de Joel est un vrai rôle, mais c'est un vrai acteur. Il joue super bien son truc, il est convaincant. Tu vois, avec le, you can hate or you can create, toutes ces petites pitreries, moi, je m'étais presque dit, oui, bon, il joue bien pour la voix, tu vois, c'est un voice actor, mais est-ce qu'il peut vraiment il est super bien, donc... assez convaincu par ça.
Ouais, pareil, je suis super content qu'ils aient repris pas mal du cast pour les remettre dans la série, parfois pour des tout petits trucs, mais parfois pour des trucs un peu plus importants, et parfois ça a même des significations un petit peu méta, ça devrait être c'est ce qu'ils devraient faire à chaque adaptation de jeu vidéo, quoi, réimpliquer ceux qui ont fait un peu le succès du jeu, quoi, même si c'est pour des petits caméos, c'est toujours sympa. À découvrir après, quoi. Parce que du coup, on peut même enchaîner, parce que du coup, l'épisode d'après commence sur l'apparition de l'actrice qui joue Ellie, du coup, dans le jeu vidéo.
Et elle joue la mère d'Ellie, ce qui, effectivement, au niveau méta, bah, c'est effectivement elle qui a donné naissance, en quelque sorte, au personnage d'Ellie. J'imagine
c'est
que
ça.
C'est de elle que tu parlais, et pas l'infirmière l'infirmière dans le à la fin, mais
bah, l'infirmière c'est tout aussi méta, puisque elle est jouée par je vais pas aller plus loin parce qu'en fait je me rends compte que c'est peut-être un spoil pour la suite, mais du coup effectivement Ellie, alors justement j'en reviens à cette scène du coup de l'accouchement d'Ellie, j'ai trouvé ça génial, vraiment extraordinaire.
Ah oui, à ce point-là,
encore une fois une scène que j'attendais pas. Que j'ai trouvé assez puissante en fait la combativité en fait de ce personnage là et puis aussi l'acceptation absolument totale de du coup c'est foutu, je suis mordu, et puis comment est-ce qu'elle donne du poids, on va dire, à l'existence d'Ellie auprès de Marlène, quoi. Pour qu'aussi on comprenne aussi la douleur, même si c'est peut-être un peu sous-exploité, mais la douleur de Marlène à devoir aller vers l'opération d'Ellie. Donc, parce que du coup, toute la contextualisation des personnages, notamment Marlène et puis d'autres personnages dans le jeu vidéo, comme on ne suit que le point de vue de Joël et d'Eli, on le découvre par un truc qui est très jeu vidéo, qui est les petits enregistrements. Donc, on va surtout pour Marlène, c'est des dictaphones où tu découvres petit à petit ton avancée dans le niveau. Son cheminement, de la compréhension de ce qu'elle va devoir faire pour pouvoir essayer de développer ce médicament. C'est moi, dans le jeu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a très très bien marché sur moi. Et fallait trouver un moyen aussi de redonner du poids, on va dire. Pas qu'on se dise, Marlène, en fait, tu vois, elle a son objectif et rien ne compte, rien d'autre ne compte. Non. C'est juste qu'elle est qu'elle a aussi des choix à faire et que c'est super douloureux pour elle. Et du coup, cette séquence-là, elle permet justement de pallier à ce changement de narration sur ces personnages secondaires. Et moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien trouvé, quoi.
Je suis assez d'accord. Cette intro fonctionne à peu près à tous les niveaux. Et du coup, en plus, ça fait un truc qu'il n'y a pas dans le jeu, c'est que ça explique exactement pourquoi Ellie est immunisée. Je me trompe pas, il n'y a pas un moment, un truc que j'ai raté, ou dans le jeu, ils expliquent que ça s'est passé comme ça pour sa mère.
Ouais, alors je sais, enfin, pour moi, ça ne l'explique pas, mais ça induit, enfin, on peut supposer, on se dit, probablement c'est ça qui s'est passé.
Marlène, elle le dit à un moment. Elle dit.
Ah oui, Marlène, elle le dit. J'ai pas forcément.
Le cordyceps a grandi avec elle et donc il considère qu'elle est cordyceps aussi et les machins messagers et tout ça. D'accord. Mais je veux dire, dans le jeu, il n'y a pas de.
Oui, c'est vrai. Cette explication. Je remets. Non, il n'y a pas du tout cette explication dans le jeu. Non.
Ouais. Donc, on peut parler de la fin du coup. Je pense que le reste est un petit peu accessoire. Qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont ce moment, dont on ne peut jamais parler avec les gens quand on parle du jeu, mais qui est tellement pivot. En fait, ce qui est intéressant avec cette série et du coup le jeu, c'est que c'est un truc de zombie classique, sauf que en fait, l'histoire n'a rien à voir avec les zombies. Enfin oui, évidemment, mais... L'histoire, c'est l'histoire de Joël et Ellie et de ce choix de Joël. Finalement, l'histoire du jeu, c'est le choix de Joël. Et quand tu parles du jeu ou de la série, on peut dire avec justesse, c'est encore un truc de zombies, les zombies sont terribles, mais le vrai danger, c'est les hommes, et l'homme est un loup pour l'homme, et dans la crise, machin. Alors qu'en fait, tout ça, c'est le background, c'est le canevas sur lequel la décision finale de Joël se dessine. Et c'est ça qu'on retient et qui est important dans le jeu et dans la série aussi, finalement. C'est toujours très difficile de parler du jeu, puisqu'on ne peut évidemment pas évoquer, parce que sans ça, si on a cette partie gâchée, l'histoire, enfin le choc est beaucoup moins grand et l'histoire a beaucoup moins d'intérêt, je pense. Mais qu'est-ce que tu as pensé alors de la manière dont c'est retranscrit en film, enfin en série ?
Alors déjà, juste un mot sur justement sur le fait qu'il aille récupérer Ellie, qui est du coup le moment où il y a le plus de, on va dire, de kill count, comme on dit, de gens qui meurent dans toute la série.
C'est à peu près le seul moment, d'ailleurs, où il y a un vrai massacre, quoi.
J'ai beaucoup aimé le parti pris de la manière dont est filmée la scène. Sur un moment un peu délirant, pas du tout... c'est pas un moment d'action. C'est pas vraiment un moment. C'est pas un moment d'action, en fait. Pas particulièrement de suspense. Il avance, il tue tout le monde. Et c'est assez... Il y a un recul, on va dire, sur cette séquence-là, là où dans le jeu, forcément, c'est un jeu d'action de tir, donc c'est plus palpitant, c'est plus peut-être héroïsé, ou je sais pas trop comment le mettre. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé cette séquence-là, ce qui amène ensuite à récupérer Ellie. Et puis là, c'est toute la construction du choix final, parce qu'en fait, il y a plusieurs choix, en fait. C'est ça qui... qui est assez puissant dans cette histoire-là, c'est que la fin, c'est une accumulation de choix qui prennent leur source donc, du coup, dans toute l'aventure. Quoi. On a à la fois sauvé ou pas Ellie, tuer ou pas Marlène, et puis dire ou pas la vérité à Ellie. Et je trouve que ça marche, bah voilà, ça marche comme ça, comme ça aurait dû marcher. voilà, je vais encore redire que j'ai trouvé ça beaucoup plus puissant et intense dans le jeu. Notamment, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de suite, c'est-à-dire qu'en 2013, quand on finit le jeu, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, on ne sait pas si on aura un jour ou pas. Et pendant longtemps, on pensait tous qu'il n'y en aurait pas du tout.
Cette histoire n'appelle pas de suite. Il n'y a aucune. Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de l'histoire qui n'a pas besoin qu'on la continue.
Et du coup, je trouve que ces derniers mots, le I swear, OK, de Joël et Ellie, avaient un poids assez gigantesque du fait que il n'y a pas de suite à attendre tout de suite, quoi, ou peut-être jamais, etc. Et je trouve que ça donne une tonalité différente de savoir qu'il y a déjà une saison 2, etc. Machin. Je sais pas ce que toi t'en penses. J'essaie d'expliquer pourquoi ça, j'ai pas eu cette espèce de choc, parce que je sais que. Alors la première fois que je l'ai fait, c'était incomparable. Moi, je me suis roulé en boule, en pleurs, dans ma petite chambre d'étudiant. Hein, c'était incroyable. Mais je veux dire, je l'ai refait régulièrement et à chaque fois, cette séquence-là, je la trouve vraiment poignante. Je trouve que le travail d'acteur est incroyable sur ces derniers mots. Pour moi, c'est peut-être une des fins de jeux vidéo, c'est peut-être la fin de jeux vidéo la plus marquante que j'ai jamais vue, quoi.
Ça est Super Mario Brothers, bien sûr, évidemment.
Récemment, il y a eu un truc dans God of War Ragnarok, hein, j'invite tout le monde à finir ce jeu. Est-ce que c'est équivalent dans la série, quoi? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas joué au jeu peut dire c'est une des fins de série les plus marquantes? Peut-être, hein, mais j'ai l'impression que ça pourrait.
Moi, je crois pas.
Mais
je serais curieux d'ailleurs, si vous avez juste vu la série et sans avoir jamais joué au jeu, dites-nous si ça vous a vraiment marqué et choqué. Alors peut-être pas le plus grand choc de l'histoire des séries, mais si ça vous a vraiment frappé en plein cœur et en pleine âme, comme c'est le cas dans le jeu vidéo, parce que c'est sûr que... Et bon, je vais dire ce que j'en pense aussi, mais je te laisse finir avant quand même, mais...
L'autre chose qui peut jouer, c'est que la caractérisation des personnages est quand même assez grandement différente. La transformation de Joël n'est pas tout à fait la même. Et Ellie n'est pas tout à fait la même non plus. Et du coup, cet échange final, pour moi, a un peu moins de poids, quoi, dans la série, tout simplement. Voilà, ça reste un moment fort. Ils ont gardé, si je dis pas de bêtises, un peu la réalisation de cette fin où tu sais pas tout de suite ce qui s'est passé. Il récupère Ellie, puis après il y a un flash forward, ils sont dans la voiture, ils commencent à en parler, puis après on revient sur ce qui s'est passé, et puis il y a la mise à mort de Marlène de sang-froid. Hein,
C'est un
sinon
petit
elle
peu
va venir la chercher, etc.
Cet assassinat de Marlène, parce que c'est pas juste qu'il lui tire dessus et puis qu'il se barre, il revient la finir avec la justification de « you just come after us », ce qui est complètement juste, mais c'est un peu pour double confirmation, tu vois, c'est le double facteur authentication de Joël. Est-ce que t'es vraiment impliqué dans ton choix? Ou est-ce que c'était juste un moment, parce qu'on peut se dire, encore plus dans la série, c'est un moment de délire où il n'est pas bien réveillé, où tu vois, il fait un choix, il fait une erreur, où il ne sait pas s'il aurait fait le choix quand même. Et bien, une fois qu'il peut prendre 2 secondes pour y réfléchir, il retourne quand même mettre une balle dans la tête de Marlène. Donc là, il n'y a pas de défense auprès de l'avocat, auprès du juge. Tu vois, mais votre honneur, j'étais pas moi-même, tu vois.
On est plus sur la légitime défense, en fait, de sa fille, entre guillemets. Voilà, ouais. Tu vois, il veut la sauver, il la sauve. Et puis, voilà, là, c'est passé, ils sont à l'abri, il peut s'enfuir.
C'est pas immédiat, en tout cas, clairement. Oui, elle essaierait de le retrouver, c'est évident. Mais c'est pas qu'elle est dans un danger immédiat. Donc...
Et puis, le poids de l'acte, c'est aussi, justement, c'est la mise à mort aussi de tous les espoirs que pouvait porter la création d'un remède, quoi. C'est-à-dire, non seulement, pas seulement le matériel source qui est Ellie, qui récupère, mais aussi tous les sachants, quoi. C'est-à-dire Marlène, le médecin qui pouvait développer quelque chose.
Ouais.
Voilà, donc c'est vraiment un peu, entre guillemets, une condamnation de l'humanité en même temps que qui sauve Ellie. Et ça, je pense que c'est assez clair dans la série aussi.
C'est clair. Et c'est ça qui fait le poids de la décision de Joël. Et pour revenir à cette partie, je trouve que ils l'ont approché de manière un petit peu différente dans le jeu et dans la série, puisque ce qu'on dit depuis le début, c'est que dans le jeu, la relation se développe, bien sûr, dans toutes les cutscenes, et j'imagine qu'il y en a plus, et puis il y a des dialogues en cours de jeu, et puis... mais ça se développe sur beaucoup plus longtemps. Et du coup, la décision de Joël dans le jeu est autant basée sur... Et peut-être, comment dire, c'est tout aussi égoïste peut-être, mais on compatit un petit peu plus avec lui. Je crois que dans la série, on compatit évidemment et on est avec lui, mais on le regarde un petit peu de l'extérieur et on se rend compte à quel point c'est un homme brisé et c'est un homme qui est... comment dire ? C'est un homme qui est dangereux et violent et qui fait les choses... On peut complètement imaginer dans la série, moins dans le jeu... que les années entre la mort de sa fille et quand il s'est un petit peu casé dans la quarantine zone, il a vraiment pas été marrant, tu vois. C'était un mec qui était... Quand il dit « j'étais de l'autre côté », quand il parle aux gens qui essayent de d'échapper à des barbares raiders horribles, dans la série, tu dis « ah ouais, ok ». Non, ok. Lui, il a fait partie des gens que tu voulais pas croiser quand tu étais seul sur la route parce que tu savais que tu n'allais pas en réchapper, quoi. Et quand il décide de sauver Ellie dans l'hôpital, c'est ça qui ressort. Et tu te dis, ok, il est parti, le mec. Et donc, effectivement, on arrive à ce moment où il arrive dans la salle d'opération, qui est un peu différent encore plus dans le jeu parce que là, le choc vient du fait qu'il n'hésite pas deux secondes avant de mettre une balle dans la tête du chirurgien. Dans le jeu, on nous laisse la main pendant un moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 10 secondes, 20 secondes, où tu es dans cette salle d'opération, tu as le flingue pointé sur le chirurgien et tu peux choisir de tirer ou pas. Est-ce que tu as tiré, toi, ou pas, la première fois ?
Je crois bien que la première fois, j'ai tiré.
D'accord, ok. Moi, je n'ai pas tiré, en fait. Je me suis dit, attends, mais non, on va trouver une solution. Je ne vais pas sciemment, volontairement tuer quelqu'un qui n'est pas en train de me pointer un flingue dessus, contrairement à ce que je viens de faire 40 fois dans le couloir qui m'a amené jusqu'ici et dans l'hôpital qui m'a amené jusqu'ici. Et le jeu tire pour toi, en fait. Au bout de 20 secondes, le jeu tire pour toi. Et donc, je me disais, mais comment ? Et sur le moment, je me disais, mais fuck, laissez-moi ce choix, quoi. Évidemment, très vite après, j'ai compris pourquoi on n'avait pas le choix. Mais donc, on est beaucoup plus investi dans cette décision, dans ces actions, que dans la série où finalement, ça va un petit peu vite. Mais la violence, la rage de Joël, on la ressent beaucoup plus. Et puis, comme tu le dis, ce dernier moment, le jeu se termine sur ces mots également, hein, c'est sur « ok ». Ces derniers moments sont pour moi aussi beaucoup plus forts dans le jeu, où je suis resté assis, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, je sais même plus combien de temps, sur ma chaise, en regardant le générique du jeu passer, avec la manette entre les mains que j'ai même pas pu, tu vois, qui m'est resté posé entre les mains et j'étais un petit peu... Je m'étais transformé en zombie aussi, je bougeais plus. Et le choc est moins fort, clairement, dans la série, pour moi, en tout cas, qu'il ne l'était dans le jeu, pour toutes ces raisons, peut-être... Disons que au final, dans le jeu, on était à une période où il y avait beaucoup de discussions, et elles allaient arriver très vite après, beaucoup de discussions sur la représentation des femmes dans le jeu vidéo, la représentation des minorités en général, mais surtout des femmes. Et là, on avait un duo père-fille adoptive de substitution, peut-être, mais quand même la présence d'un personnage féminin hyper important et pas caricatural, et quand même... sur la série, on se rend compte que Ellie est un petit peu un accessoire pour nous expliquer Joel, quoi. Mais bon, ça se termine quand même sur elle, et c'est hyper important. Et c'est ce moment où elle accepte de croire le mensonge de Joel, et je crois qu'elle décide de le croire en connaissance de cause plus ou moins. Moi, c'est comme ça que je l'avais interprété, mais elle se dit. Je sais pas, je peux pas vraiment savoir, inconsciemment peut-être, et puis je vais accepter quand même parce que, je veux lui faire confiance, et puis j'ai pas vraiment le choix, et puis à quoi ça sert, et puis machin. Et c'est ce qui fait le tragique de cette situation. Je sais pas si on le ressent autant dans la série, cette interprétation-là, peut-être qu'elle est plus personnelle pour moi.
Moi, je suis assez convaincu que ça marche pas autant, qu'il y a aussi... Je pense que c'est plus facile, enfin, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais Ellie dans le jeu vidéo est jouée par une actrice avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Il y a un travail collectif d'animation sur ce visage. Mmh. Et il y a un truc, moi, il y a vraiment un truc qui s'est passé dans le jeu, c'est qu'elle a vraiment à la limite les larmes aux yeux. Et tu sais, enfin, tu te demandes vraiment si elle sait ou pas, quoi. Il y a un truc, c'est. T'as l'impression qu'elle sait. T'as l'impression qu'elle veut pas savoir, mais en même temps, tu sais pas. Et je trouve que c'était plus difficile comme nuance à rendre, peut-être, pour Bella Ramsey. J'ai vraiment fait la séquence, du coup, dans le jeu, sur le remake, hein, qui en plus, ils ont retravaillé à nouveau les visages à ce niveau-là. J'ai refait la séquence 2 jours avant, quoi. Ça m'a repris au trip complètement dans le jeu et un peu et pas autant en fait dans la série. Ouais.
Je me demande si c'est pas un petit peu pollué par le fait qu'on l'ait fait et du coup on associe notre sentiment de la première fois aussi et puis des fois qu'on l'a refait. Et tu vois, c'est une sorte de réflexe de Pavlov quand on voit le truc dans le jeu, ça nous provoque
complètement. C'est pour ça que, enfin, moi, quand j'en parle avec des collègues ou des amis qui ont, du coup, qui sont pas des joueurs et qui ont vu la série, ils ont tous vraiment bien aimé la série, bien et ou voire un peu plus que bien. Mais c'est jamais un truc vraiment incroyable, quoi. En tout cas, si tu recontextualises la série The Last of Us dans, on va dire, ce qui se fait en film, en série, voilà, c'est pas le truc le plus incroyable que t'aies vu. Alors que qu'en jeu, ça peut l'être. Du coup, tu vois, la question, c'est qu'est-ce que ça dit finalement sur le standard de narration dans le jeu, ou alors qu'est-ce que ça dit sur le rôle de l'interactivité et de l'implication qu'on peut avoir avec nos personnages dans ces jeux-là, c'est là où je suis convaincu, c'est que pour moi, l'interactivité, c'est le summum de l'implication et de pouvoir rentrer dans des personnages et dans des univers. Et ça augmente tout, en fait. Ça amplifie toutes les émotions que tu peux véhiculer, surtout quand tu as le talent de Naughty Dog pour en plus accrocher une narration et une réalisation assez impeccable autour de ce gameplay-là. Parce qu'effectivement, Ellie, c'est pas seulement la petite fille qu'on a protégée pendant 30 heures, c'est aussi un personnage qu'on a incarné, qu'on a vu devenir... qu'on a vu passer de cette jeune fille un petit peu fragile qui aurait aucune chance de survie à cette guerrière, parce que du coup ça c'est pas dans la série, mais il y a toute une séquence où on la joue, où elle va chasser pour se nourrir et nourrir Joel. On voit ça un tout petit peu dans la série, mais du coup on la voit se battre, on la voit prendre les armes, elle a son arc, dans la séquence, il y a une séquence avec des zombies où elle doit affronter toute une horde avec David. Puis ensuite, dans le village avec David, elle tue aussi beaucoup de gens. Donc, elle est devenue Joel, quoi. Elle est devenue une, une espèce de guerrière. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie du propos de ce qui se passera dans la suite. Mais du coup, on a vraiment accompagné tout ce cheminement-là, à la fois côté Joël et à la fois côté Ellie. Et ce qui fait que ce final, en fait, vient un peu culminer pas mal de choses qui ne sont pas, en fait, dans la série, tout simplement, et qui ne peuvent pas l'être. Peut-être que tout n'est pas adaptable, et je pense que, je vais le redire, hein, c'est probablement la meilleure adaptation de jeu vidéo que j'ai jamais vue. Il y a un travail, et en plus, c'est d'autant plus impressionnant pour moi que ils ont refait le jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, il y a un travail de reproduction très minutieux pour caler vraiment un pour un le jeu vidéo le plus possible. Et on m'aurait posé la question avant, j'aurais dit que c'est pas la bonne idée, c'est pas ce qu'il faut faire quand on adapte un jeu. Ils l'ont fait quand même, et en faisant ça, ils ont quand même fait ça brillamment. Mais je pense qu'ils ont probablement fait le maximum de ce qui pouvait être fait sous cette façon d'adapter le jeu, quoi. C'est très niveau par niveau, c'est-à-dire chaque épisode c'est un niveau, on retrouve toute une structure qui est propre au jeu vidéo. Et donc, parfois, ça marche, et sur certains points, je trouve que ça marche pas très bien.
Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a un truc... Je pense qu'effectivement, toute la partie... gameplay, c'était pas vraiment possible à reproduire. Ni dans la durée, ni dans le fait qu'on incarne les personnages. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, on incarne également Ellie, donc on est peut-être un petit peu plus impliqué dans son personnage et son devenir qu'on ne l'est dans la série, même si on passe du temps avec elle également pendant que Joel est incapacité. Ils ont parlé du fait que on passe pas tout notre temps à tuer des gens dans la série parce que ça marche dans le jeu vidéo, mais si tu fais ça en série, tu n'es pas une sorte de psychopathe, ça n'a aucun sens. La dissonance ludonarrative est bien plus présente dans la dissonance, sério-narrative. ça fonctionnerait pas. Là où je pense qu'il aurait pu... Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais là où je pense qu'il aurait peut-être été possible d'encore mieux adapter, c'est que je trouve qu'il manque deux ou trois épisodes. Tout est un poil rushé. Alors, ça fonctionne. C'est pas le minimum viable product, c'est pas la minimum viable série où on fait tout aussi petit que possible pour que ça marche quand même. Mais je trouve que si on avait eu un petit peu plus de temps, si on avait eu... J'avais vu que tu avais tweeté le fait qu'il y avait un petit peu le syndrome Dead Guy of the Week. Chaque semaine, la personne qu'on rencontre est très méchante et meurt. Si on avait eu un ou deux moments où les gens meurent pas, à part à Jackson dans la ville du frère de Joel, si on avait eu un ou deux moments un petit peu différents, si on avait passé un poil plus de temps avec eux, je crois que ça aurait peut-être encore mieux fonctionné. J'imagine qu'il y a une question de budget aussi. C'est une série qui coûte très cher. Et puis, ils n'étaient pas sûrs que ça marche. Ils ne savaient pas. Enfin, les gens de HBO, j'imagine qu'ils font confiance à... Comment il s'appelle, Craig Mazin? Mais ils ne connaissent pas trop Neil Druckmann. Ils ne savaient peut-être pas comment ça allait fonctionner. Donc, ils se sont dit, on ne va pas être complètement fous sur les budgets pour le nombre d'épisodes. Mais je crois quand même que, tu vois, 11-12 épisodes, ça aurait aidé à mieux installer le truc et ça aurait plus... fait fonctionner la relation, les personnages, tout aurait mieux marché.
J'aurais tellement aimé voir un deuxième épisode 3, quoi. Qui était, je pense que c'est
vraiment quelque chose de différent.
Ça reste le meilleur de la série pour moi, et j'aurais aimé qu'ils reprennent un peu cette idée d'épisode un peu solo, comme ça, annexe, sur un autre personnage. En tout cas, comme tu le dis, effectivement, c'est un gros projet, il y a des contraintes assez claires, hein, côté budget, et puis aussi, effectivement, il y a toujours la question pour les producteurs de se dire, on adapte un jeu vidéo, quand on regarde ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est pas l'Eldorado non plus. Et du coup, maintenant, ils n'auront pas d'excuses pour la saison 2. Enfin, saison 2, 3, 4, je sais pas jusqu'à où ils veulent aller, mais là, j'ai l'impression que tout roule pour eux, donc ça va être top de voir ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils sont un peu plus libérés de point de vue côté attente, quoi.
Je pense aussi, j'espère comme toi que ça va les, les débrider un petit peu, même si... Alors, la conclusion, je pense qu'on est d'accord tous les deux, on est quand même sur, oui, si c'est pas la meilleure adaptation, et encore une fois, avec le fait que c'est plus facile quand c'est un jeu hyper narratif, quand c'est déjà un film, ok, mais c'est quand même, je crois, la meilleure adaptation de jeu vidéo qui ait jamais été faite. Même si, disons qu'après l'épisode 3, moi, je m'attendais à dire « Mais comment, c'est incroyable, c'est le meilleur truc de l'histoire, de machin, truc !» Je ne suis pas aussi hypé qu'après l'épisode 3, parce que je trouve que c'est trop court, mais quand même, c'est hyper bon et la meilleure chose que le jeu vidéo ait produit en série ou en film. Bon, il y a Arcane d'un côté, il y a Donjons et Dragons. Ah, mais c'est un jeu de rôle, c'est pas un jeu vidéo, donc non, ça compte pas. Mais oui, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui a été faite, quoi. On peut être d'accord sur cette conclusion, je crois.
Ouais, tu me donnes envie d'aller revoir Arcane.
J'ai envie aussi de revoir cette série, moi aussi. Je manque de temps, malheureusement. J'ai surtout envie de refaire le jeu, en fait.
Ouais. Bah, franchement, moi je recommande à tous ceux qui ont fait le jeu et enfin qui ont fait le jeu à l'époque ou même sur PS4 au début et qui a assez de temps qui s'est passé de faire le remake. Je crois que c'est 15 heures. Si vous connaissez le jeu, vous allez vous mettez en facile pour profiter de l'histoire, quoi. Vraiment le travail visuel sur la lumière, sur les visages. C'est un peu la beauté des remakes, c'est souvent quand on lance le remake au début, on se dit ah, mais en fait c'est pas trop différent par rapport à l'époque. En fait non, tu mets les deux jeux à côté, ça a rien à voir. Et vraiment le travail d'acteur, il est vraiment sublimé dans cette version et ça vaut vraiment le coup de retourner, quoi.
Est-ce que tu le recommandes du coup ce jeu, le remake peut-être aux gens qui ont vu la série mais qui n'ont pas fait le jeu jusqu'à maintenant? Remake ou version? Parce que c'est compliqué, il y a eu le jeu original qui est sorti sur PlayStation 3 en 2013 je crois,
oui.
Puis une sorte de remaster sur PlayStation 4 en 2014, très vite après, c'était le moment de la sortie de la nouvelle console de Sony. Et il y a du coup, l'année dernière, un remake qui est sorti sur PlayStation 5 et sur PC.
Sur PC, il est dispo depuis... Il n'est pas encore dispo. Il sort là demain, d'accord. Je crois.
Oui, bon. Ouais. Donc, il arrive. Donc, les gens ne savent souvent pas lequel choisir. Le remake de 2014 sur PS4 tourne sur PS5 et il est beaucoup moins cher, généralement.
Alors, la réponse, c'est effectivement... Je crois que le remaster de la version PS4 est quasiment gratuit. En tout cas, il est dans les abonnements Sony, donc je ne sais pas quel niveau, mais voilà, il est accessible facilement. Est-ce que ça vaut le coup de payer, je ne sais pas combien il est le remake,
70, peut-être même 80
entre 50 et 80 euros, bah ça c'est un peu chacun qui, qui saura pour lui ce que vaut une expérience de jeu, mais j'aurais tendance à vraiment recommander le dernier, quoi.
Ouais, donc le faire, même si vous le payez pas, ouais, c'est 80 boules. Hein. Ouais. C'est 80 boules de Last of Us Part 1. Attends,
c'est
comment ça...
d'occasion ou alors, enfin, de toute façon, le jeu d'époque, surtout la version remaster PS4, ça reste un bon moment. Hein. Vous allez pas du tout regretter. Mais vraiment, je trouve que, ne serait-ce que sur le travail des acteurs, c'est un plus vraiment non négligeable sur la dernière.
Je l'ai dans ma bibliothèque. Est-ce qu'il était inclus dans le PS Plus à un moment ou...
Il était donné, acheté, entre guillemets, aux acheteurs de PS5. Si
non, non, mais
souviens,
je parle de Part 1, le remake PS5.
Ah oui, d'accord. Non, non,
je
ne
l'ai pas acheté.
Donné.
Je suis convaincu que je ne l'ai pas acheté. Et... Ah non, il est... Non, non, je sais. Il est dispo en version test, en fait. Tu sais, si tu es abonné PS Plus Premium, machin. Et donc là, il me le compte comme dans ma bibliothèque. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, d'accord. Tu peux faire une heure ou deux heures sur le jeu si tu es abonné PS Super Premium, je sais pas quoi. Non, je ne l'ai pas vraiment dans ma bibliothèque, en fait. C'est mal foutu, ça, parce que ça donne l'impression que je l'ai. Parce que j'ai téléchargé la démo. Bref, donc, faites-le. Même si vous avez vu la série, si vous l'avez apprécié, eh ben, jouez au jeu, parce que le jeu était mieux. Je pense qu'on a été assez clair sur ce point. Merci, Johan, de m'avoir accompagné pour cette longue aventure narrative. Les prochaines étapes, c'est quoi? C'est bientôt Mandalorian?
Il y a Mandalorian qui est en cours. Je n'ai rien vu encore.
D'accord.
Trois épisodes qui sont sortis que je n'ai pas vus.
Alors, je ne te dis, je ne te dis rien. On attendra peut-être la fin de la série. Hein. Mandalorian, c'est pas du...
Ouais.
Alors, il y a un petit peu de punch, mais c'est pas du super laser punch, vraiment. Contrairement à The Last of Us, qui, clairement... On attendra peut-être la fin de la série. Et puis, il y a quoi d'autre? Je sais même plus ce qui se passe dans le monde des...
Bah, je sais plus non plus. Il doit y avir Gardiens de la Galaxie cet été, quoi, en mai, je crois.
Ouais,
puis d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais les projets du MCU sont tout chamboulés en ce moment.
Ah non, mais j'ai pas vu. Envoie-moi un lien. Ou dis-moi maintenant. Non, t'as peut-être plus le temps là.
Si, si. Enfin, vite fait. Grosso modo, il y a une grosse remise en question côté Disney Plus et côté qualité des films, quoi. Et donc, du coup, ils sont en train de revoir les plannings. Et du coup, la frise chronologique qu'on avait vue, je sais plus c'était à quelle occasion on en avait parlé ici. Ouais, a priori, elle est en train d'être un petit peu chamboulée avec de nouveaux projets qui s'incrustent, mais surtout un calendrier qui s'allonge pour espacer un peu tout ça, quoi.
D'accord, bon bah écoute, on aura peut-être un petit peu moins l'occasion de vous retrouver, mais on le fera quand même autant que possible.
Si c'est pour de la qualité, c'est une bonne chose.
Évidemment, forcément. Non mais je dis ça, mais vu ce qu'on a pensé d'Ant-Man 3, je crois qu'on est et de certains autres projets Marvel ces derniers temps, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Super, bah merci beaucoup Johan, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai très hâte déjà de pouvoir revenir parler de Last of Us partout ou Season 2 sur cette antenne. Mais on reviendra évidemment entre-temps pour plein d'autres choses. Avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs veulent te dire bonjour ?
Eh ben on peut venir me dire bonjour sur Twitter, sur UNT_, et bien sûr sur le Discord de Patrick Béja pour discuter de tout, en fait, de tout.
De tout, de cuisine, sur le Discord,
de baseball, ce que vous voulez, vous venez vous en parler. On sera là pour lire.
Super. Et pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, notepatrick.com, les podcasts que je fais sur l'actu tech et gaming, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu qui sont dispo chaque semaine. Et ben voilà, c'est tout. On vous donne rendez-vous très bientôt, on ne sait pas quand, mais bientôt. Et on vous fait quand même de grosses, grosses bises, évidemment. Ciao, ciao.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.